En attendant de retrouver vos habitudes à la rentrée, on vous propose de découvrir cette nouvelle émission dont vous pouvez retrouver tous les épisodes sur franceculture.fr et l'application Radio France. France Culture, ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbo.
Toussez une dernière fois, voulez-vous?
Doucement, gardez vos virus pour vous.
Qu'est-ce que vous diriez d'une grippe carabinée avec une bonne fièvre?
Il n'y a que ma fluxion qui me prend de temps en temps.
Il y en a de toutes les formes et de toutes les tailles. Sphériques, en tubes, cubiques, géants ou nanoscopiques, ils peuvent contenir tantôt de l'ADN, tantôt de l'ARN, à deux brins ou à un seul. Ce sont les virus. Un temps confondu avec des bactéries, ces parasites intracellulaires ont bouleversé notre conception du vivant tant ils se refusent encore à rentrer dans les cases. Certains peuvent être dangereux pour l'humain et c'est finalement comme cela qu'on les connaît le mieux parce que notre proximité avec le monde sauvage a permis l'émergence de nouvelles maladies infectieuses qui se sont parfois transformées en pandémies. Pourtant, la majorité des virus est certainement inoffensive pour nous et ils sont... Pourtant, la majorité des virus est certainement inoffensive pour nous. Et ils sont aussi des membres indispensables de la biodiversité et de l'évolution des espèces. Comment a-t-on découvert la nature et le fonctionnement des virus? Comment questionnent-ils notre rapport au monde vivant? Comment les virus ont-ils changé le monde? Et pour explorer cette histoire virale, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Keck. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, directeur de recherche CNRS, auteur des Sentinelles des pandémies, chasseurs de virus et observatoire d'oiseaux aux frontières de la Chine paru chez Seuil et à distance depuis l'Aveyron. Bonjour Tania Louis.
Bonjour.
Vous êtes docteur en virologie, médiatrice scientifique et autrice de La folle histoire des virus, parue chez Human Science. Il est essentiel de revenir avant tout sur ce terme de virus. Vous n'avez peut-être d'autres explications en tête. Un nom utilisé pour plein d'autres raisons que celui associé au monde microbien, par exemple par Émile Zola dans Nana, une lecture de Sophie-Catherine Gallet.
Nana restait seule, la face en l'air, dans la clarté de la bougie. C'était un charnier, un tas d'humeur et de sang, une pelletée de chair corrompue, jetée là, sur un coussin. Les pustules avaient envahi la figure entière, un bouton touchant l'autre. Et flétrie, affaissée, d'un aspect grisâtre de boue, elle semblait déjà une moisissure de la terre sur cette bouillie informe où l'on ne retrouvait plus les traits. Un œil, celui de gauche, avait complètement sombré dans le bouillonnement de la purulence. L'autre, à demi ouvert, s'enfonçait comme un trou noir et gâté. Le nez suppurait encore. Toute une croûte rougeâtre partait d'une joue, envahissait la bouche, qu'elle tirait dans un rire abominable. Et sur ce masque horrible et grotesque du néant, les cheveux, les beaux cheveux, gardant leur flambée de soleil, coulaient en un ruissellement d'or. Vénus se décomposait. Il semblait que le virus, pris par elle dans les ruisseaux, sur les charognes tolérées, ce ferment dont elle avait empoisonné un peuple, venait de lui remonter au visage et l'avait pourri.
Frédéric Keck, une réaction peut-être à ce texte? Y a-t-il d'autres exemples historiques de l'utilisation de ce terme virus qui ne renvoie pas à un microbe?
Alors, ce texte de Zola, c'est donc le dernier paragraphe de Nana, qui est un roman sur une prostituée, je crois, qui est infectée par la syphilis, qui est donc une maladie qui se transmet par les relations sexuelles. Et on voit dans ce texte que Zola utilise la notion de virus au sens où c'était employé dans la pensée médicale du milieu du 19e siècle, c'est-à-dire comme un poison, une force malsaine. Et Zola, qui était donc un romancier naturaliste, avait l'idée que ces poisons se transmettaient par dégénérescence, par toutes ces relations malsaines comme la sexualité dans les bas-fonds de Paris.
Tous les Rougon-Macquart, finalement, tout ça suite, en fait.
Voilà, toute sa conception du roman et de la généalogie. Et ce qui est très intéressant, c'est que Zola va reprendre la notion de virus au moment de l'affaire Dreyfus, dont il est un des héros, pour dénoncer le virus antisémite. Et il se présente, lui, comme le pasteur qui va prendre sur lui le virus antisémite et qui va se sacrifier parce qu'il sait que ça s'est déchargé sur un innocent qui est le capitaine Dreyfus. Donc on voit comment cette notion de virus, à la fin du XIXe siècle, elle n'a aucun lien avec la microbiologie. Elle est vraiment liée à une conception des maladies sociales.
Et il y a eu une évolution, sans déflorer toute notre histoire, il y a eu une évolution forte sur la question de la définition du virus. On peut même aller jusqu'au virus presque informatif. Donc il y a une notion, enfin, le terme de virus est chargé par autre chose en fait que la simple l'aspect médical à travers les âges.
Alors, avec la découverte de l'ADN et de l'ARN en 1953, le virus va être compris comme un morceau d'information qui commet des erreurs de réplication. C'est ça qui explique les maladies, c'est-à-dire les mauvaises réactions du système immunitaire. Et Peter Medawar, qui était un immunologiste, disait « Un virus, c'est une mauvaise nouvelle dans une capside. » Puisque la capside, c'est ce qui fait entrer cette information dans la cellule, dans le noyau de la cellule. En 1982, vous avez un informaticien qui écrit un article qui dit bah, « Finalement, cette conception du virus comme information qui fait des erreurs, ça nous permet de concevoir des programmes pour faire dérailler des ordinateurs. » Effectivement, nous, tout notre imaginaire de la viralité est lié à cette conception de l'information. Mais aussi bien Zola que Pasteur, qui lui va utiliser le microscope, n'ont pas du tout cette idée de l'information.
Et il y a aussi d'emblée une question sur la nature de ces virus et où les classer dans le vivant. Tania Louis, les virus finalement sont-ils vivants ou inertes et pourquoi est-ce qu'ils ne rentrent pas facilement dans les classifications classiques ?
J'ai combien d'heures pour répondre à cette question ? Non, alors effectivement, aujourd'hui on définit beaucoup les virus par rapport à leur génome, mais c'est arrivé très tard, hein. La démonstration que l'ARN est le support d'information génétique d'un virus, ça a été fait pour la première fois à la fin des années 50 et ça a mis un certain temps à être intégré. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a pas de consensus des biologistes sur la définition de virus et on n'en a pas non plus sur la définition de vivant. Donc, autant dire que c'est compliqué de dire si un virus est vivant ou pas. Ce qui est intéressant, c'est plus les raisonnements qu'on va faire pour tenter de répondre à cette question que la réponse à laquelle on va arriver. En général, pour définir le vivant, il y a trois grands critères qui reviennent. Il y a la notion de reproduction, la notion d'évolution, et là-dessus, il y a aucun doute que les virus cochent les cases, et il y a la notion de métabolisme, c'est-à-dire le fait d'échanger de la matière et de l'énergie avec son environnement. Et pour les virus, souvent, c'est sur ce point-là que ça coince, parce qu'en fait, on a tendance à assimiler les virus aux particules virales, qui sont des unités de dissémination inertes, donc en pratique ni vivantes ni mortes, hein, vraiment inertes, mais qui du coup n'ont pas de métabolisme, donc ne cocheraient pas les cases du vivant. Moi, je fais partie des personnes qui considèrent les virus comme vivants, parce que je suis assez convaincue par la vision des choses qui consiste à dire qu'on ne peut pas définir les virus en se basant que sur leur unité de dissémination, et qu'il faut prendre le cycle de reproduction virale en son entier, et que la phase la plus intéressante du cycle viral, en fait, sa phase active, c'est la partie où le virus pirate une cellule pour la transformer en usine à fabriquer de nouveaux virus. Et ça change vraiment assez drastiquement le fonctionnement des cellules pour qu'on puisse considérer que c'est une forme d'entité biologique en soi, que certains proposent d'ailleurs d'appeler la virocellule. Et du coup, cette entité biologique-là, qui serait la phase active du cycle de dissémination et de reproduction des virus, est, elle, complètement en adéquation avec la définition du vivant.
J'aimerais qu'on revienne, avant d'entrer en détail justement dans l'histoire de la découverte de ces virus et de leur fonctionnement, j'aimerais qu'on fasse peut-être un petit bilan de la découverte des microbes en général, et notamment des bactéries, parce que ce sont deux entités bien distinctes, mais avec des méthodes de mise en évidence qui en fait se recoupent assez. Comment étaient observés et caractérisés les premiers microbes, dont les bactéries, Tania Louis ?
Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que historiquement, la découverte des bactéries n'a pas grand-chose à voir avec celle des virus, parce que la découverte des bactéries au tout départ s'est faite par l'observation microscopique. Donc la première personne qui aurait observé des bactéries, c'est Anthony von Leeuwenhoek, qui est un drapier, qui est, on va considérer comme un des premiers inventeurs du microscope. Donc là, on est dans les années 1660-1680.
1676.
C'est ça. Moi, j'étais pas mal. Donc, c'est lui le premier à avoir observé, on va dire, des micro-organismes, parce qu'il n'y avait pas que des bactéries. Il y avait aussi des petits animaux marins, ce genre de choses. Donc, des choses beaucoup plus grosses que des bactéries, mais c'est aussi le premier à avoir observé des bactéries. Donc, en fait, la découverte de ces organismes-là est passée par la microscopie, alors que les virus sont restés pendant des décennies après leur découverte des entités qu'on ne pouvait pas voir au microscope.
Et ce qui est aussi intéressant dans cette histoire de microscopie et de cette découverte, c'est qu'en fait, finalement, Antoine Leeuwenhoek va observer toute une diversité en plus immense de micro-organismes, mais il va se passer presque 200 ans avant qu'on se ressaisisse un petit peu de cette découverte. En fait, il n'y a pas vraiment de suite, justement, à cette recherche pseudo, enfin, ou en tout cas scientifique, même si lui ne l'était pas, Tania Louis.
En fait, on est sur un fonctionnement de la recherche qui est très différent à l'époque hein, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Et il faut bien avoir en tête qu'en fait, ce sont des organismes qui, à l'époque, étaient très compliqués à étudier. Anthony Van Leeuwenhoek, il a fait des observations microscopiques, mais ce n'est pas la même chose de faire des observations sur un échantillon que de cultiver volontairement un organisme, d'essayer de comprendre comment il se reproduit. Et c'était assez exceptionnel avec les microscopes qu'il avait à l'époque de réussir à les observer. Hein, parce qu'il avait un vrai talent manuel pour fabriquer des lentilles très très régulières et très précises. Mais tant qu'on n'a pas de moyen de cultiver un organisme en laboratoire, en fait, on est un petit peu coincé pour l'étudier. Et là, il a fallu attendre effectivement plutôt les années 1800, et notamment les travaux des équipes de Pasteur et de Koch, pour qu'on progresse sur la compréhension des bactéries.
Notamment sur la théorie des germes de Pasteur, la théorie microbienne. Il va proposer justement que de nombreuses maladies sont causées par des micro-organismes.
La microbiologie, ou science des microbes, est née en France. Elle a été inaugurée par les travaux de notre grand Louis Pasteur, qui démontra, en de mémorables expériences, que les micro-organismes, pas plus que les êtres supérieurs, ne peuvent apparaître par génération spontanée. Pasteur prouva qu'un microbe d'espèce donnée tire nécessairement son origine d'un autre microbe préexistant appartenant à la même espèce. Ainsi, la vie, même au plus bas degré de l'échelle des êtres, ne saurait jamais provenir que de la vie.
Fernand Lott, dans Le Monde des Microbes, une archive de l'INA de 1948. On entend notamment notre grand Louis Pasteur, et cette série d'émissions sur les découvertes scientifiques a aussi pour but de démythifier certaines figures. Alors, faut-il remettre en cause un petit peu l'adoration de la France pour Pasteur ou non, Frédéric Keck?
Alors, ce qu'a découvert Pasteur, effectivement, c'est pas les microbes, puisqu'on les avait vus au microscope depuis deux siècles, c'est la variation de virulence et les méthodes de stérilisation en laboratoire qui permettent d'étudier ces variations. C'est ce qui fait d'ailleurs sa supériorité, on peut dire, sur Koch dans la querelle sur l'explication des maladies à la fin du 19e siècle, même si Koch a eu d'autres justement davantage sur la rigueur de démonstration de ce qu'on appelle le postulat de Koch, c'est que Pasteur s'est allié aux Anglais, notamment ceux qui héritaient des méthodes de Jenner sur la vaccination, puisque la vaccination, c'est une variation de virulence des microbes. Et donc, c'est pour ça que Pasteur ne parle pas des virus, il ne les voit pas, il ne s'y intéresse pas, il n'étudie pas des maladies causées par des virus à proprement parler, mais par contre, cette capacité des microbes à causer des maladies en fonction de leur virulence, ça, c'est vraiment ce qu'il a mis au jour. Et effectivement, c'est le fondement de la santé publique au début du XXe siècle, c'est-à-dire l'usage de la vaccination et la possibilité de remonter pour chaque maladie au microbe qui la cause en vue de fabriquer un vaccin.
Et donc, Pasteur travaille aussi sur des méthodologies très rigoureuses. Est-ce qu'on peut dire, Tania Louis, qu'il apporte quelque chose quand même des premières bases à la virologie par cette méthode expérimentale très, très poussée?
Alors, Pasteur a amené beaucoup de choses, mais effectivement, moi, je suis globalement assez en accord avec le fait qu'il faut déconstruire les mythes des grands hommes, parce que souvent, ce sont des hommes qui auraient fait progresser d'un coup la science. En fait, Pasteur s'appuie sur énormément de travaux réalisés avant lui. Hein. Comme on l'a dit, la vaccination, bah, c'est pas Pasteur, c'est Jenner. Et même avant Jenner, il y avait déjà la variolisation qui venait de l'Empire ottoman et de la Chine avant lui. Donc, on sort aussi d'une histoire centrée sur l'Europe, ce qui me paraît important. Et Pasteur n'a pas inventé le vaccin contre la rage. Il a plutôt été en réalité issu du travail de Pierre Galtier, qui a été oublié par l'histoire, qui aurait aussi mis au point ce qui est devenu aujourd'hui la pasteurisation. Donc il y a un côté très mythe national français autour de Pasteur, qu'il est important de déconstruire à mon avis, d'autant qu'il y a quand même des problèmes éthiques dans certaines de ses expériences, mais ça n'enlève rien à la qualité de son travail. Et c'est important de le dire, on peut avoir fait progresser la science et avoir fait un travail remarquable sans pour autant devoir être considéré comme la seule personne ayant révolutionné une discipline. Moi, ce que je trouve intéressant par rapport au travail de Pasteur, c'est quand on lit, par exemple, ses textes sur la rage, il parle de virus. Il utilise vraiment le mot virus, mais pas avec le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Et pourtant, il a effectivement joué un rôle fondamental dans la découverte des virus, mais de façon très indirecte. Parce qu'en fait, c'est un des collaborateurs de Pasteur, Chamberlain, qui a mis au point un filtre qui était un filtre en porcelaine qui permettait de bloquer les bactéries. Donc l'objectif à la base, c'était de pouvoir enlever les bactéries d'un milieu pour le décontaminer. Et en fait, c'est ce filtre qui a donné naissance, quelques décennies plus tard, à la virologie.
On va y venir en détail sur ces expériences qui ont permis de mettre en évidence les virus. Frédéric Kerr, vous vouliez réagir?
Oui, la raison pour laquelle on a statué Louis Pasteur, bon, c'est en partie parce qu'il a construit l'Institut Pasteur contre la rage et qu'ensuite, on a construit des instituts Pasteur dans le monde entier pour lutter contre les maladies dites tropicales. À Dakar, vous avez un institut Pasteur, à Pasteur, l'Afrique reconnaissante. Mais l'autre raison, c'est que, justement, Louis Pasteur introduit, enfin, l'Institut Pasteur introduit dans le débat sur l'affaire Dreyfus une nouvelle argumentation qui n'est pas celle de Zola qui dit « Je suis un pasteur qui va se sacrifier à la place de Dreyfus », mais nous allons étudier les preuves contre Dreyfus avec la même rigueur que nous étudions les expérimentations en laboratoire. Et c'est pour ça que la variation de virulence est très importante. C'est plus le virus qui se décharge dans la société, c'est des petits phénomènes qui s'observent en laboratoire. Et ça, c'est le rôle d'Émile Duclos, qui était le premier président de l'Institut Pasteur.
France Culture, ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbeau.
Nous arrivons au cœur de notre sujet, la découverte des virus. Et ce n'est pas une maladie humaine, mais une maladie végétale qui a permis leur mise en évidence. Le premier virus découvert est celui de la mosaïque du tabac en 1886. Adolf Meyer, chimiste et agronome allemand, décrit pour la première fois cette maladie des plants. Quelles sont ses observations, Tania Louis? Qu'est-ce qu'il voit?
Alors concrètement, la mosaïque du tabac, c'est une maladie qui fait apparaître des taches sur les feuilles et qui change leur morphologie. Et qui nuit aussi un peu à la croissance de la plante, ce qui fait qu'elle est plus utilisable pour fabriquer du tabac. Et d'où l'intérêt économique d'étudier cette maladie à l'époque et d'essayer de comprendre d'où elle vient. Et en fait, l'article que publie Meyer en 1886 est vraiment très intéressant. Moi, je le recommande si vous étudiez la biologie, parce que c'est un très bel exemple d'article qui décrit des résultats scientifiques négatifs. Ce qui est quand même relativement peu courant, parce que la première partie de l'article est consacrée à décrire la maladie, donc son effet sur les plantes, la façon dont elle semble se transmettre aussi, puisque c'est une maladie qui a quand même l'air assez contagieuse, mais est-ce que c'est vraiment un agent infectieux ou pas? C'est toute sa question. Quelle est l'origine? Et il arrive à la conclusion que c'est quand même quelque chose de contagieux, notamment parce qu'il peut transmettre la maladie à travers la sève, c'est-à-dire que prendre la sève d'une plante malade et l'inoculer à une autre plante transmet la maladie. Et ensuite, il passe tout l'article à essayer de trouver d'où ça vient. Et il teste plein d'hypothèses. Il regarde s'il trouve des nématodes dans le sol, etc. Et toutes les hypothèses qu'il teste ne fonctionnent pas. Et il arrive à la conclusion que bon, c'est quand même ça a l'air bloqué par certains filtres. C'est sensible à la chaleur. Ça se trouve dans la sève. Ça doit être un micro-organisme infectieux, potentiellement une bactérie, mais sans grande conviction. Et pourtant, c'est vraiment une publication fondatrice.
Mais il voit que ce jus, en fait, est contaminant. Et autour des mêmes années, il y a deux autres chercheurs qui vont travailler sur cette mosaïque du tabac, un Russe et un Néerlandais. Et c'est assez intéressant de se dire que trois nationalités différentes, en fait, vont travailler sur une maladie qui n'est justement pas humaine, qui est végétale. Et c'est justement un financement, en fait, international par le biais de l'industrie du tabac qui permet ça, Tania Louis.
Ben en fait, c'est intéressant parce que ça commence en Europe. Alors, le troisième, Martinus Beijerinck, le néerlandais, était un ancien collègue de Adolf Meyer, hein, donc ils travaillaient ensemble au tout départ. Et donc, ça a commencé en Europe entre 1886 et 1898 sur la mosaïque du tabac, mais aussi le deuxième virus identifié, qui est celui de la fièvre aphteuse, qui a été identifié par des chercheurs allemands, anciens collaborateurs de Koch. Mais très vite, les recherches ont basculé aux États-Unis. Précisément au département de l'agriculture des États-Unis, le USDA, à l'Institut Boyce-Thompson et à l'Institut Rockefeller, ce qui est devenu l'Institut Rockefeller de recherche médicale. parce que les financements étaient plus importants aux États-Unis qu'en Europe. Ça a joué un rôle sur quels pays ont continué à travailler sur cette pathologie-là. Et ça a commencé en Europe et ça a basculé assez vite aux États-Unis.
Et ce que je trouve assez intéressant aussi, vous en avez parlé un petit peu de ce filtre de Chamberlain. Est-ce que finalement, Frédéric Keck, c'est le seul outil dont on a à disposition à ce moment-là pour valider quelque chose sans le voir ? Est-ce que c'est un fait, une méthodologie finalement assez étonnante ? Un filtre, c'est quelque chose d'assez simple en fait, qui va servir pendant près de 50 ans à une méthodologie expérimentale pour quelque chose qu'on ne peut pas voir et qu'on confond un petit peu avec une bactérie.
Oui, effectivement, à partir des recherches sur la mosaïque du tabac, le virus va être défini comme une entité infectieuse non filtrable, à la différence des bactéries. Mais l'autre méthode qui va être employée dans les années 30 pour voir le virus, avant le microscope électronique, c'est la cristallographie. Ça, c'est des biochimistes qui, repèrent que dans cette sève, de la feuille de tabac infectée, il y a comme des cristaux de sel. Ils vont arriver à modéliser ces cristaux de sel. Et ça va être le nouveau modèle pour penser les virus comme des cristaux.
Daniel, oui, vous vouliez réagir?
Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu deux filtres utilisés au tout départ. Donc, le filtre de Chamberlain et le fait que, entre guillemets, on n'utilisait pas encore le mot virus pour ça à l'époque. Donc en 1890, que le virus de la mosaïque du tabac ne soit pas bloqué par le filtre de Chamberlain, c'est un premier point. Mais il a été montré que le virus de la fièvre aphteuse, lui, était bloqué par un autre filtre, le filtre de Kitasato. Et c'est intéressant parce que le filtre de Kitasato a été mis au point par Kitasato, on est très originaux dans les nomenclatures, hein, qui lui travaillait dans l'équipe de corps. Donc en fait, le premier filtre qui a permis de montrer que les virus étaient autre chose que des bactéries a été mis au point par un collaborateur de Pasteur, et le filtre qui a permis de montrer que quand même c'était des entités solides et non pas liquides, qui avaient quand même des filtres qui arrivaient à les bloquer, et ben c'est un filtre qui a été mis au point par un collaborateur de corps.
On voit l'importance aussi de ces collaborations. Et qui est le premier, en fait, en définitive, Tania Louis, à exprimer vraiment la notion de virus pour un agent infectieux dans une pathologie?
Donc c'est le Néerlandais dont on parlait tout à l'heure, Martinus Beijerinck, qui dans une publication de 1898, toujours sur la mosaïque du tabac, reproduit l'expérience du filtre de Chamberlain qui a été fait avant lui par Dmitri Ivanovski, le botaniste russe. Mais il arrive à une expérience supplémentaire qui a vraiment changé la donne, parce qu'elle a permis de montrer qu'en fait l'agent infectieux n'était pas une toxine. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une petite quantité de sève contaminante, il a infecté une nouvelle plante, puis il a repris une petite quantité de sève sur cette plante-là, avec laquelle il a infecté une autre plante, et ainsi de suite. Et il a montré que ça restait toujours infectieux, ce qui était dû au fait que l'agent était capable de se multiplier dans les plantes. Donc on avait quand même quelque chose de vraiment biologiquement actif, capable de proliférer dans l'organisme infecté, mais incapable de proliférer en dehors de cet organisme, plus petit qu'une bactérie, sensible à la chaleur. Et c'est toutes ces caractéristiques-là qui l'ont amené à la conclusion qu'on avait un nouveau type d'agent infectieux. Et ce qui est intéressant, c'est que dans son article, il utilise le mot virus, mais un peu comme l'utilisait Pasteur. Il propose jamais de définition de ce qu'est un virus, il propose jamais d'utiliser spécifiquement le mot virus pour cette nouvelle catégorie de micro-organismes, mais c'est le premier à dire que c'est un type d'agent infectieux nouveau, et finalement, c'est le mot virus qui va rester pour décrire cette entité qui, à l'époque, n'était pas visible au microscope, pas purifiable, pas cultivable en laboratoire, et difficile à pas bloquer par des filtres non plus. Donc là, on est en 1898, une trentaine d'années avant la cristallisation et la microscopie.
Et justement, à quel point est-ce qu'on sait que comment ce savoir s'est un peu répandu sur les plantes? Et est-ce que rapidement, on a commencé à chercher dans la médecine humaine, parce qu'on est un peu anthropocentré, à chercher justement des pathogènes filtrables, Tania Louis?
En fait, ça allait très vite. Je crois que la règle principale de la virologie, c'est plus on cherche des virus, plus on en trouve. Donc on a très très vite eu de plus en plus de virus répertoriés. En fait, le deuxième virus identifié, la fièvre aphteuse, du coup, c'est un virus du bétail. Donc on est très vite passé des plantes aux animaux. Alors, en 1898, la même année. Et à partir de 1900, donc seulement 2 ans plus tard, il y a eu des travaux sur le premier virus humain étudié, qui était le virus de la fièvre jaune. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est arrêté très vite. pour une raison très simple, qui est qu'à l'époque, on ne pouvait pas étudier les virus en laboratoire sans infecter les organismes sensibles à ce virus. Donc, ça veut dire que quand on étudie un virus du tabac, on a besoin de serre avec des plants de tabac. Quand on étudie un virus du bétail, on a besoin d'alpage avec du bétail. Et quand on étudie des virus humains, on a besoin d'infecter des humains, ce qui pose des problèmes éthiques évidents. Et en fait, les travaux sur la fièvre jaune se sont arrêtés au bout de même pas 2 ans, parce qu'il y a eu des morts et qu'il a fallu mettre fin à ce travail. Et par contre, ça a suffi pour montrer que c'était un virus transmis par les moustiques. Mais il y a eu un gros arrêt à l'étude des virus humains au départ à cause de ça. C'est pour ça que la plupart des premières découvertes de la virologie ont été faites ou bien sur le virus de la mosaïque du tabac, ou bien sur des bactériophages, des virus qui infectent les bactéries, qui eux ont été découverts à peu près à la moitié des années 1910 et qui étaient pour le coup très pratiques à étudier en laboratoire puisque les bactéries elles-mêmes étaient cultivables en laboratoire.
Et je voudrais aussi qu'on cite justement cette question de difficile méthodologie expérimentale. Les travaux d'Harry Allard en 1915, il a justement mis en place une méthodologie particulière avec des milliers de plans en fait. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu cette méthodologie, Tania Louis? Et puis, est-ce que ça aurait été finalement, vous le disiez un petit peu, impossible à faire avec des animaux? Animaux, je nous mets dedans y compris.
En fait, Harry Allard, c'était un scientifique de l'USDA, le département de l'agriculture des États-Unis. Et en fait, pour démontrer la nature parasitaire des virus, il a un petit peu reproduit l'expérience de Martinus Beijerinck de dilution en série. Lui, en fait, il prenait de la sève, il la diluait de plus en plus et il réinfectait des plantes avec la sève qui avait été diluée 10 fois, avec la sève qui avait été diluée 100 fois, etc. Et d'une façon qui pourrait un peu rappeler l'homéopathie, pour montrer à quel moment ça s'arrête de marcher, en fait. Mais ce qu'il faut voir, c'est que du coup, pour chaque condition expérimentale, il faut vérifier que les résultats sont reproductibles. Donc pour chaque dilution qu'on teste, il faut une dizaine de plans, qu'il faut garder plusieurs semaines pour voir si des symptômes apparaissent ou pas, parce que les symptômes mettent quand même du temps à apparaître. Et au total, pour montrer la nature parasitaire des virus, qui était encore débattue à l'époque en 1915, il a testé des dilutions sur plus de 900 plants de tabac. Donc on imagine la logistique qu'il faut pour faire ça et à quel point ce serait compliqué sur autre chose que des plantes, en fait.
Nous avons posé de solides bases de la découverte des virus. Comment comprend-on leur nature et quelles implications pour les épidémies et notre rapport au virus? C'est la suite de notre programme juste après ça.
Il est minuscule, ridicule, mais il m'a eu. J'ai le nez qui coule, c'est pas cool, j'éternue. Il est dans mes veines, pas de veine, il m'a choisi. Un petit microbe, ça vous met même un ogre au tapis.
Moi je me mouche et j'ouvre la bouche pour respirer. Oui, ça fout la frousse car je tousse sans arrêt. D'accord, c'est qu'un rhume, cette enclume dans la tête. Un petit virus, pas même une puce. M'a fait ma fête.
Je me croyais fort, la la la.
J'avais vraiment tort, la la la.
Dites-moi à quoi ça sert de faire le beau quand il suffit d'un courant d'air pour vous mettre KO.
Fort, la la la.
Qu'est-ce qu'on avait
tort,
la la la.
Mais comme il n'y a pas de vaccin contre les idiots,
il y aura toujours des petits malins.
Pour jouer les héros.
Moi c'est pas le pire, car je vais guérir dès demain. Mais j'aime quand même, là sur mon front blême, sentir ta main. L'amour me soulage du mal qui fait rage. Et je comprends combien c'est précieux. souffre vraiment. Je me croyais fort, j'avais vraiment tort. La la la. Dites-moi à quoi ça sert de faire le beau quand il suffit d'un courant d'air pour vous mettre KO. Fort, la la la. Qu'est-ce qu'on a? Comme il n'y a pas de vaccin contre les idiots, il y aura toujours des petits malins pour jouer les héros.
Oh, la, la, la.
Pour vous mettre KO. Dites-moi à quoi ça sert de faire le beau quand il suffit d'un courant d'air pour vous mettre KO. Pour vous mettre KO. Mais comme il n'y a pas de vaccin contre les idiots, il y aura toujours des petits malins pour jouer les héros.
Je me croyais fort, Axel Bauer, Francis Cabrel et Zazie sur France Culture. Nous explorons la découverte des virus en compagnie de Frédéric Keck, anthropologue et directeur de recherche au CNRS, et de Tania Louis, docteur en virologie et médiatrice scientifique. Alors nous avons vu cette découverte des virus s'est fait par le biais d'une pathologie des plantes, la mosaïque du tabac. On a compris aussi qu'il y avait uniquement un outil qui était le filtre pour pouvoir mettre en évidence cette entité filtrante, pathogène et infectieuse. Mais ensuite, comment se passe un petit peu le progrès technique, Tania Louis. Comment se perfectionnent en fait les techniques pour comprendre un petit peu le fonctionnement des virus et puis pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur?
Alors je préviens d'emblée que cette liste ne pourra pas être exhaustive, mais dans les grandes étapes marquantes, il y a la mise au point des premiers anticorps spécifiques capables de détecter le virus de la mosaïque du tabac, qui ont été obtenus par Hélène Purdibile, qui était chercheuse à l'Institut Boyce-Thompson. Il y a eu la cristallisation en 1935, donc comme on l'a évoqué tout à l'heure, par Wendell Stanley, qui a permis en fait de déduire le contenu moléculaire des particules virales, donc qui sont des ribonucléoprotéines, c'est-à-dire des mélanges de protéines et d'ARN, acide ribonucléique. Peu de temps après, toujours dans les années 1930, on a eu les premières utilisations des techniques d'ultracentrifugation, c'est-à-dire de centrifugation suffisamment puissante pour pouvoir faire tomber les particules virales au fond des tubes, puis les premières observations au microscope électronique, donc assez puissant contrairement au microscope optique pour permettre d'observer les virus. Donc tout ça, cristallisation, ultracentrifugation, microscopie, c'est les années 1930. Et on arrive dans les années 1950, en 1955-56, à la première structure détaillée de particules virales, donc toujours de la mosaïque du tabac, par de la diffraction au rayon X, donc du bombardement de cristaux au rayon X pour voir comment les rayons étaient renvoyés, par une certaine Rosalind Franklin, qui avait auparavant travaillé sur la structure de l'ADN avec la même approche. Donc en fait, de son vivant, elle a été très reconnue pour son travail sur la structure des virus, donc notamment le virus de la mosaïque du tabac, avec des maquettes présentées à l'exposition universelle de Bruxelles en 1958. Et puis, juste après, en 1957, donc juste après la structure, on arrive à une autre découverte fondamentale, qui est que l'ARN est le support de l'information génétique du virus de la mosaïque du tabac, qui est au passage la première démonstration que l'ARN peut être un support d'information génétique. Et c'est la même chose, la démonstration que l'ADN est le support de l'information génétique avait été obtenue quelques années auparavant avec des virus de bactéries. C'est les virus qui ont permis de montrer que les acides nucléiques, ADN ou ARN, sont des supports d'information génétique. Ça nous amène à la fin des années 50 avec déjà quand même beaucoup de progrès techniques. Et en parallèle de tout ça, il y a aussi le développement des techniques de biologie cellulaire qui permettent de cultiver des cellules et non plus des organismes entiers en laboratoire, ce qui facilite par ricochet grandement l'étude des virus. Et voilà, là on a les principaux progrès technologiques de la première moitié du XXe siècle. Et en fait, le deuxième gros bond est beaucoup plus récent parce que c'est le bond du séquençage génétique. Aujourd'hui, pour caractériser un virus, on passe beaucoup par la caractérisation de son génome. Et ça date plutôt de la toute fin du XXe siècle, voire début XXIe, pour que les techniques deviennent moins chères et plus rapides.
Et on mentionnera en fin d'émission aussi les dernières découvertes en fait concernant ces virus et le fait qu'ils n'entrent encore moins en fait finalement dans les classifications qu'on connaît. Maintenant qu'on comprend bien de quelles pièces sont faites les virus, il va falloir qu'on remonte un petit peu dans le temps et qu'on se focalise aussi sur les grandes pandémies virales qui ont changé le monde. Et notamment, il y a un exemple prégnant, c'est celui de la grippe dite espagnole qui a sévi entre les années 1918 et 1919 à travers toute l'Europe.
Madame, vous avez eu la grippe lors de cette fameuse épidémie de grippe espagnole de 1918. Vous aviez quel âge ?
J'avais 10 ans et demi. Déjà, j'étais la dernière atteinte de la famille, envoyée chez une de mes tantes pour que je n'attrape pas. Et puis le lendemain de mon arrivée chez ma tante, j'ai commencé à me sentir vraiment très mal. J'ai eu l'impression d'avoir la tête très lourde, de me sentir très mal. On m'a ramenée à la maison pour que je fasse ma maladie. En même temps que celle des autres, et j'ai le souvenir, voilà, on m'a couché, voilà, on m'a soigné. Je n'ai aucun souvenir de genre de mal que j'ai pu avoir.
Vous, madame, vous avez vu votre fille avec la grippe et toute la famille.
Toute la famille.
Sauf vous.
Exactement, sur 5 personnes que nous étions à la maison, j'étais la seule à ne rien avoir et à soigner les autres.
Comment est-ce que vous les soignez ?
Je les faisais boire.
Il y avait une forte fièvre ?
Oh, ouais.
Oui, une très forte fièvre.
Très forte fièvre.
On cherchait à la faire baisser, vous vous souvenez de ça ?
Non, pas tellement.
Bah, si tu te rappelles, on était obligé de donner des bains.
On donnait des bains, oui.
On donnait des bains froids.
Des bains froids.
Vous savez à peu près combien de morts a fait cette épidémie de grippe ?
Je crois qu'elle en a fait au moins autant que la guerre elle-même, d'après ce que... Je crois plus, même.
C'est ce que les gens ont un peu oublié.
La virulence des virus, une archive de l'INA datant de 1973, en direct de l'Institut Pasteur. Frédéric Heck, pouvez-vous nous rappeler un petit peu l'histoire de cette grippe dite espagnole ? Et dans cette archive, on entend aussi la question de la difficile comptabilisation et puis aussi de la question du soin. Et s'il y a eu des méthodes qui ont émergé au moment de cette pandémie pour la soigner ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les progrès technologiques en laboratoire qu'on a vu avec la mosaïque du tabac, qui est donc une maladie végétale, et la fièvre aphteuse, qui est une épizootie, c'est-à-dire une maladie transmissible seulement dans le bétail et pas aux humains, vont influencer la gestion sociale des épidémies et ce qu'on appelle bientôt les zoonoses, un terme milieu du 19e siècle, donc les maladies transmissibles des animaux aux humains. Pasteur avait effectivement contrôlé, Pasteur et Cor, cette médecine fondée sur la bactériologie avait permis de contrôler la rage, la tuberculose, qui étaient des épidémies importantes à l'époque. Mais la grande épidémie qui n'obéit pas aux principes de la bactériologie, c'est la grippe de 1918, dite espagnole parce que l'Espagne était indépendante, mais en fait elle venait des États-Unis, et on sait maintenant qu'elle venait sans doute d'un élevage de porcs, puisque au début, un médecin allemand trouve chez des patients infectés une bactérie qu'on appelle la bactérie de Pfeiffer. Et puis, on se rend compte que, en fait, la plupart des patients qui ont la grippe n'ont pas cette bactérie. Et c'est seulement dans les années 1930 que des médecins anglais, donc notamment un monsieur Schoop, vont réussir à infecter un porc avec ce virus humain de la grippe, et surtout un furet. Alors le furet, c'est très important parce que le furet éternue. Il a les mêmes symptômes que l'humain. Donc c'est un très bon modèle animal de laboratoire pour l'étude de la grippe, ce qui n'est pas le cas du porc. Bon, le furet, c'est quand même plus discret en laboratoire, c'est plus facile à cultiver, justement.
Plus facile.
Donc, dans les années 1930, vous avez ces premières recherches sur la grippe qui vont appliquer justement la cristallographie, les méthodes de filtration qui ont été appliquées donc à la fièvre aphteuse et à la mosaïque du tabac. Et puis, dans les années 1960, vous avez justement cette méthode d'étude des anticorps pour justement fabriquer des vaccins contre la grippe qui va être appliquée notamment dans l'école d'immunologie de Frank McFarlane Burnett en Australie. Alors, le point très important à comprendre à ce moment-là, c'est que les élèves de Burnett vont découvrir des anticorps contre la grippe chez les oiseaux. Alors ça, c'est tout à fait inattendu, c'est une découverte. On ne pensait pas que les oiseaux pouvaient transmettre la grippe. À partir de cette découverte dans les années 1960, ils vont collecter des déjections d'oiseaux et faire des banques de virus de la grippe aviaire. Alors, à la fois dans la trajectoire migratrice des oiseaux sauvages de l'Asie vers l'Australie et de l'Amérique du Nord vers l'Amérique du Sud. Puisque Robert Webster, qui était un des élèves de de Burnett va construire un laboratoire au milieu des États-Unis, à Memphis, dans le Tennessee, où il va faire ses gigantesques banques virales. Et ça, c'est le point de départ véritablement des recherches sur la grippe et de la compréhension des mécanismes de mutation du virus de grippe.
Et est-ce qu'il y a une mise en place on entendait un petit peu dans les témoignages, justement, il n'y avait pas vraiment moyen de lutter contre ces épidémies-là. Est-ce qu'il y a eu des mises en place de prévention et de gestion des maladies virales? Comment est-ce que ça a évolué, en fait, au fur et à mesure du temps, des grippes aviaires ou non,
Frédéric Kek? Alors, c'est là où c'est important de comprendre en quoi les virus transforment notre conception même de la prévention. Notre modèle de la prévention vient justement de la tuberculose ou de la variole, qui sont des maladies gérables par la vaccination parce que c'est des pathogènes assez stables. La variole ne franchit pas facilement les barrières d'espèces et la tuberculose, c'est rare de l'attraper depuis les bovins. Au contraire, les virus de grippe circulent avec une grande rapidité entre les oiseaux sauvages, les volailles domestiques, les cochons et les humains. Ils le font parce que justement, c'est des virus à ARN simple brin, sans mécanisme de correction des erreurs de réplication. C'est ça la grande découverte de Webster, en fait. C'est qu'il faut avoir cette gigantesque base de données virales avec le séquençage génétique qui permet de comprendre justement toutes les séquences qui font fabriquer les 8 segments du virus de grippe pour anticiper le prochain virus de grippe. À partir de là, Webster et ses collègues, notamment Kennedy Shortridge à Hong Kong, vont voir que les grandes pandémies de grippe du 20e siècle, ont commencé dans le sud de la Chine. Alors, c'est pas vrai de celle de 1918, mais c'est sans doute vrai de celle de fin des années 1800, mais fin 19e, et surtout celle de 1957 et de 1968, grippe de Hong Kong. Et donc, ils vont se dire, bon, il y aura une pandémie de grippe qui va arriver, il faut l'anticiper. Et donc, pour ça, il nous faut cette surveillance permanente des virus de grippe qui circulent chez les oiseaux. Et donc là, on n'est plus dans une stratégie de prévention, c'est-à-dire d'information des humains sur les risques de transmission de la tuberculose, parce qu'on va dans des quartiers insalubres, par exemple, ou on vit dans des quartiers insalubres, plutôt. Mais on va plutôt préparer l'émergence catastrophique d'un virus de grippe pandémique.
Et il y a eu beaucoup de pandémies, on ne pourra pas toutes les citer, mais en fonction à chaque fois des nouvelles découvertes qu'on fait sur la nature de leur virus, sur la manière de réagir, sur la manière d'infecter, comment a changé un peu notre rapport au virus? Je pense par exemple au VIH qui au départ a été identifié dans la communauté homosexuelle, donc qui a été justement mise de côté pour ça. On a cru d'abord à un cancer avant de se rendre compte que finalement on n'arrive pas réellement à créer de vaccin. Comment ça a changé un petit peu notre vision peut-être de la maladie et même de notre rapport au virus?
Ce qui est très intéressant dans le virus de sida, c'est que c'est effectivement des recherches sur le cancer qui ont permis de comprendre le mécanisme de réplication du virus du sida, qui est un virus qui rentre dans l'ADN de la cellule. Donc c'est un rétrovirus. C'est pour ça que les effets du virus du sida sont assez tardifs, puisqu'il fait effondrer le système immunitaire. Mais du point de vue de la gestion sociale des épidémies, effectivement, ce qui est très important, c'est de voir comment les victimes de cette épidémie sont les premiers acteurs de la gestion de cette épidémie.
Et de la recherche.
De la recherche, c'est-à-dire la communauté homosexuelle. Alors, du coup, c'est la première grande pandémie de la fin du XXe siècle. Alors, ce qui est important, c'est de voir comment le modèle du sida a ensuite conduit à anticiper d'autres pandémies qui, elles, se produisent complètement différemment. C'est-à-dire le sida, l'effet entre l'infection et la maladie est très long, peut-être des dizaines d'années. Le SRAS qui émerge à Hong Kong en 2003 et qui confirme l'anticipation des virus de grippe aviaire par les élèves de Burnett, lui, c'est un virus qui se produit extrêmement rapidement puisqu'il est aérien. Et effectivement, il vient, il est certain qu'il vient des chauves-souris par différents animaux, et c'est lui qui va causer la pandémie de Covid-19. Donc c'est pour ça que dans la gestion des épidémies, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons plusieurs modèles. Nous avons la gestion de la tuberculose, Louis Pasteur, début du XXe siècle. Nous avons la pandémie de sida, forte implication des communautés concernées. Et nous avons le SRAS et la grippe aviaire, qui, elles, reposent sur une préparation aux pandémies par la surveillance des réservoirs animaux.
Tania Louis, vous vouliez réagir?
Oui, juste parce qu'on est en train d'évoquer des familles virales extrêmement différentes. Les virus de la grippe, les rétrovirus comme le VIH, les coronavirus du SRAS de 2002-2003, puis le SARS-CoV-2 qui a émergé très récemment. On voit bien que tous ces virus ont des modes de contamination et de développement de maladies très différents. Et en fait, c'est pas forcément les virus en tant que type d'agents infectieux qui ont fait évoluer notre prise en charge des épidémies, mais plutôt les maladies qu'ils provoquent et la façon dont ces maladies se développent, mais qui est extrêmement variable d'une famille virale à l'autre. Donc souvent, en virologie, c'est difficile de faire des généralités.
France Culture, ils ont changé le monde. Les découvertes scientifiques. Alexandra Delbo.
Et nous arrivons dans la dernière partie de cette émission. On a beaucoup parlé donc de zoonose avec la récente épidémie de SARS-CoV-2. On a accusé le pangolin, la chauve-souris, le vison pour le VIH, c'était les singes, Ebola aussi. Quelle épidémie finalement a changé un petit peu notre rapport au monde animal et sauvage, Frédéric Keck? Comment les virus ont un peu transformé notre rapport à la nature et aux animaux?
Alors, je crois que ce qui est important à voir pour revenir sur les exemples qu'on a évoqués jusque-là, c'est le passage du modèle animal au réservoir animal. C'est-à-dire qu'on l'a dit, le bétail pour la fièvre aphteuse, le furet pour la grippe dans les années 30, c'est des animaux sur lesquels on va faire des réplications de virus pour comprendre éventuellement leurs effets sur les humains, mais aussi sur le bétail pour des raisons soit économiques, soit sanitaires. La grande découverte de Webster et de ses collègues, mais qui reprend en fait des idées d'un pasteurien qui s'appelle Charles Nicolle sur les réservoirs animaux et qui en fait venait de la gestion de la peste et du typhus dans les années 30 avec le rôle des rats, des puces, des tiques. Cette idée de réservoir animal, c'est-à-dire que les virus, leur but c'est de se répliquer. Et quand ils infectent...
Pour vivre, ils sont obligés de se répliquer.
Ils sont obligés de se répliquer pour vivre. Puisqu'ils n'ont pas de mécanisme de réplique, ils n'ont pas le métabolisme nécessaire pour se répliquer eux-mêmes. Donc, il faut qu'ils infectent le plus grand nombre de vivants. Chaque espèce vivante constitue une nouvelle niche dans laquelle le virus multiplie ses chances de se répliquer. Il n'y a aucune intention du virus. Le virus, c'est juste une information qui multiplie ses possibilités de réplication dans un raisonnement strictement darwinien. Donc, il faut multiplier cette surveillance des virus pour anticiper ceux qui vont causer une réaction immunitaire imprévisible et catastrophique sur les humains. C'est ça la nouvelle technique de gestion des épidémies.
Et il y a aussi, ça qui sonne aussi un petit peu notre proximité à la nature. Parce que dans le SARS-CoV-2, on a eu beaucoup la question de notre proximité. Donc certes, il y a un réservoir viral, les virus doivent se reproduire, mais c'est aussi notre proximité directe avec les animaux, les échanges, la mondialisation qui en fait a permis à des maladies émergentes d'émerger justement. Et on peut y voir aussi une sorte de nature qui se venge, c'est-à-dire cette proximité trop forte entre l'humain et ses conséquences en fait développe aussi ces questions de pandémie.
C'est pour ça que la découverte du rôle des chauves-souris dans l'émergence d'un grand nombre de virus, alors qu'ils commencent... Bon, on savait que les chauves-souris transmettaient la rage depuis les années 1960, mais c'est sans doute le virus Hendra en Australie en 1989, et surtout le SRAS en 2003. Les chauves-souris, pour des raisons liées à leur écosystème très particulier, à leur métabolisme justement comme mammifères volants, ont la capacité d'héberger un grand nombre de virus qui ne sont pas pathologiques chez elles, mais qu'ils sont quand elles sont transmises aux humains. Alors, pourquoi est-ce que, tout d'un coup, les humains reçoivent des virus des chauves-souris? Alors, on peut dire, c'est parce qu'on détruit l'écosystème des chauves-souris, c'est la déforestation, elles se rapprochent des habitats humains, on construit des fermes de cochons à côté des forêts où vivent les chauves-souris. Mais effectivement, le vrai facteur, c'est pas le facteur d'émergence, chez les chauves-souris ou chez les oiseaux sauvages, c'est l'amplification. C'est-à-dire, c'est la capacité d'élevage industriel dans le sud de la Chine, de grandes villes comme Wuhan, où il y a des marchés et des laboratoires où on cultive des virus, à transmettre ces virus à la population humaine. C'est ça qui cause les pandémies. C'est pas les animaux. Les animaux, effectivement, ont évolué en parallèle de l'humanité pendant des millénaires, avec des tas de virus qui, quand ils passent à une humanité amené à 6 milliards de personnes, cause effectivement ces catastrophes immunitaires.
Daniel Louis, cette question des espèces réservoirs et de la proximité de l'humain à la nature.
Oui, mais je pense que ce qui est important ici, c'est de mentionner ce qui est devenu un concept central en santé aujourd'hui, le concept de One Health, une seule santé qui réunit tous les composants de l'écosystème, donc les humains et tous les autres animaux, mais pas que. et également les végétaux, etc. Et que la santé doit plus être pensée à l'échelle d'une espèce, mais vraiment doit être pensée à l'échelle des écosystèmes, puisque les agents infectieux circulent. Et en fait, aujourd'hui, on a effectivement une transmission beaucoup plus rapide des agents infectieux une fois qu'ils ont commencé à s'adapter à l'espèce humaine, parce que la population est beaucoup plus nombreuse, plus connectée, avec des zones très denses. Mais en fait, ces zoonoses, ces passages de maladies virales ou non d'ailleurs, de l'animal à l'humain, elles ont toujours existé. Et les principales sources de ces zoonoses, historiquement, ce sont les animaux d'élevage, à côté desquels on vit beaucoup, et les rongeurs, qui sont très très proches des habitats humains. Il s'avère que les changements récents font qu'il y a aussi de plus en plus de contacts avec la faune sauvage, mais c'est un mécanisme très ancien, et c'est important de rappeler qu'il marche dans les deux sens. Parce qu'en tant qu'humain, on est très préoccupé des agents infectieux que les animaux pourraient nous transmettre, mais il ne faut pas oublier que les humains aussi peuvent transmettre des agents infectieux aux autres animaux.
Et maintenant qu'on a beaucoup parlé de pathologie, j'aimerais vous entendre tous les deux sur le fait que finalement les virus ne sont pas que des maladies. Il faut aussi peut-être questionner cette association. Et est-ce qu'il ne faut pas changer dorénavant, même si on a vécu une pandémie qui a bien sûr influé sur nos vies, changer un peu notre rapport au virus, Frédéric Keck ?
Oui, il y a des recherches très intéressantes qui montrent que le mécanisme placentaire des mammifères est dû à l'insertion dans le code génétique, enfin dans le génome humain, d'une section virale qui permet justement au corps, à l'organisme féminin de ne pas rejeter le fœtus. Donc ça montre que dans notre évolution en tant qu'espèce, nous avons beaucoup de virus que nous avons pu intégrer dans notre... Alors le sida, ça s'est mal passé, mais il y a beaucoup d'espèces qu'on a pu intégrer, d'espèces de virus qu'on a pu intégrer. Et ça pose une question philosophique, qui est la question de savoir si nous sommes des hôtes pour les virus. Et effectivement, en tant qu'hôte, il y en a auxquels on peut dire non merci, on n'est pas très... préparé pour vous accueillir.
Comme le microbiote, finalement.
Voilà, c'est ça. Donc le virus fait partie du microbiote. Donc il y a une toute petite minorité, sans doute parce qu'elles viennent d'espèces humaines, animales trop éloignées, pour lesquelles on n'a pas la possibilité de cohabiter avec ces virus. Et puis il y en a beaucoup qu'on peut intégrer dans notre microbiote, justement. Et alors ça pose encore une autre question philosophique plus redoutable, qui est la question de savoir si, entre la bactérie et le virus, laquelle est le premier. Puisque, effectivement, nous sommes des énormes tas de bactéries qui ont réussi à constituer des tas de mécanismes pour vivre ensemble. Et alors, est-ce que le virus, c'est un morceau de bactérie qui se serait détaché en quelque sorte de son mécanisme de réplication? Ça, c'est l'hypothèse en quelque sorte, le bien d'abord, le mal ensuite. C'est-à-dire justement le virus comme cette espèce de fragilité ontologique. Ou alors, est-ce que d'abord, il y a ces parcelles d'informations ADN, ARN qui ont été là et qui ont réussi à constituer des mécanismes de réplication. Et ça, c'est redoutable comme question, parce que à ce moment-là, le rapport entre l'hôte et celui qui est accueilli est inversé.
Daniel Louis, cette question d'entamer une révolution conceptuelle concernant le regard qu'on porte sur les virus et puis leur rôle, que ce soit dans la biodiversité ou dans l'évolution des espèces.
Oui, alors effectivement, je pense qu'il est très important, on travaille à détacher la notion de virus de la notion de maladie, parce qu'en fait, elle résulte d'un biais dans la façon dont on étudie les virus depuis le départ. On en a parlé avec la mosaïque du tabac, puis avec les grippes, etc. Les virus qu'on a volontairement étudiés sont des virus qui nous posaient problème, ou bien parce qu'ils rendaient les humains malades, ou bien parce qu'ils rendaient malades les organismes qui nous intéressaient. Mais en fait, c'est un énorme biais d'échantillonnage. Aujourd'hui, si on regarde le site internet du comité de taxonomie des virus, on approche des 15 000 espèces répertoriées. Et sur ces 15 000 espèces, il n'y en a que quelques centaines qui infectent les humains. Et en fait, la majorité des virus, déjà, n'infectent pas les humains. Et on a de plus en plus d'exemples de virus qui, de toute façon, ne rendent pas malades les espèces qu'ils infectent. Alors, c'est particulièrement remarquable chez les chauves-souris, dont le métabolisme fait qu'elles sont tolérantes à de nombreux virus qui, pour nous, sont très virulents. Donc, des coronavirus, mais aussi des choses comme des Ebola, hein, des fièvres hémorragiques. Mais nous-mêmes, en tant qu'humains, nous sommes porteurs de virus qui ne nous rendent pas malades. Alors, il y a les virus qu'on porte dans notre microbiote, mais qui sont en fait des virus de bactéries en grande majorité. Donc, évidemment, ils ne nous infectent pas directement. Mais même parmi les virus qui nous infectent, nous sommes tous et toutes porteuses de virus herpès, qui la plupart du temps ne nous posent pas de problème. Peut-être un bouton de fièvre de temps en temps, quand on est un peu fatigué, que notre système immunitaire est plus au taquet. Mais en fait, on ne guérit jamais d'un herpès. Donc si vous avez eu un bouton de fièvre une fois, sachez que vous êtes toujours porteur ou porteuse de cet herpès et que la plupart du temps, il ne vous pose pas de problème. Et ce n'est pas vrai que pour les humains. Il y a des études sur les plantes qui se développent beaucoup en ce moment qui ont montré que chez les plantes sauvages, à peu près un quart sont porteuses de virus qui ne les rendent pas malades. Donc simplement, on associe la notion de virus à la notion de maladie parce que depuis le départ, on cherche les virus qui rendent malades. Mais on estime qu'il y a plusieurs milliards d'espèces de virus sur Terre. Et peut-être qu'une des raisons pour lesquelles on les connaît si mal, c'est justement qu'on a attaqué l'étude des virus par le prisme des maladies. Et effectivement, pour développer ce qui était dit sur le placenta, on a de plus en plus d'exemples de virus qui nous ont aussi rendu service. Donc les fameux rétrovirus qui s'installent dans le génome des cellules qu'ils infectent, aujourd'hui, composent l'équivalent de 8% de la longueur totale du génome humain, sachant qu'on a moins de 2% de gènes, donc vraiment 8%, c'est énorme. Et là-dedans, bah, il y a cette protéine, enfin, ces protéines, il y en a deux, les syncytines qui sont exprimées par le fœtus et qui permettent la mise en place du placenta. Il y a une protéine qui s'exprime dans nos cerveaux, qui joue un rôle dans le développement cérébral, la mémoire à long terme et l'apprentissage. Et très récemment, en février 2024, il a été montré que c'est aussi une séquence d'origine virale qui régule la mise en place de la myéline, donc qui est une gaine qui est mise en place autour des neurones et qui accélère la transmission des informations nerveuses. Donc les virus, non seulement ne nous rendent pas malades, mais nous ont rendu un sacré nombre de services très importants sur le plan évolutif.
Et finalement, plus on cherche des virus, plus on en trouve et plus on en découvre sur eux. Merci à vous deux, Tania Louis, Frédéric Keck, d'être venus nous parler de la découverte des virus et de comment ils ont changé le monde.
Attention, attention, tube virus, enfilez vos protections tube virus. Careful, 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 stupe virus, put on your virus protection.
Truc chimique, stupe fantôme, te rend paraplégique, psychotique, son posthume, le truc te soigne par tous les pores, broie ton système, ce virus est mortel, ouais pour la vie n'a pas d'estime, tu contractes des mélodies, t'as la pied caisse claire maladie, tu vas sombrer dans la folie, car ce son tu c'est affolant,
stupe virus,
truc atroce, ça te laisse en connaissance, ta liste Spotify infectée par la stupe danse,
attention stupe virus,
enlève-moi ce truc de la cervelle,
le stupe virus, nique ton cerveau de ta carte à puce,
attention stupe virus,
comment je peux m'en débarrasser,
mec c'est la poisse, c'est foutu, t'as les symptômes du stupe virus,
suffisamment pour éliminer des milliards de personnes.
Stup virus, truc vorace, suite de son qui te laisse des puces. Te ronge la carapace, le truc te prend l'encéphalus, ça fout la frousse. Et sur YouTube, verrez le pouce. Ça provoque des secousses, y'a le bouton replay qui trépasse. Stup virus, boule d'acide, ravage à la région nord. Toujours pas d'antidote, tu ne fabriques plus d'anticorps, c'est hypnotique, pas ton pote. Couleur verte et boule d'azote, c'est pas le sang qui est plaisante, le plus méchant des parasites.
Attention, tu...
Merci à Sophie Catherine Gallet à la préparation de cette émission, Sam Bakiast à la réalisation. Et aujourd'hui, c'était Félix de la cours et Anthony Thomasson à la technique.
Attention, tube virus.
Enlève-moi ce truc de la cervelle.
Le stupe virus, nique ton cerveau de ta carte à puce.
Attention, tube virus.
Qui ont éliminé d'un coup des millions de gens.
Le croup pénètre tes oreilles et il te grignote la tête. Il est trop chou comme ces petites qui font la course en trottinette. Et il te ramone la cervelle, squatte tes conduits auditifs. Et il te fait des acouphènes qui resteront définitifs. T'as des fourmis dans le cibolo.
On se quitte en musique avec Stup Virus de Stupéflip. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres découvertes scientifiques qui ont changé le monde sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.
Le Stup Virus, nique ton cerveau de ta carte à puce.
Attention, Stup Virus.
Comment je peux m'en débarrasser ?
Mec, c'est la poisse. T'as les symptômes du stup virus.
Attention, stup virus.
Le stup virus, nique ton cerveau de ta carte à puce.
Attention, stup virus.
Oh non, non, j'ai attrapé le stup
virus. Un virus. Parmi les maladies les plus terrifiantes que nous connaissions.